Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous avons eu une grande série d'entretiens autour du Christ. Ce n'était pas étonnant, hein, notre foi chrétienne.
Centre de notre foi.
C'est le centre de notre foi. Et juste après ce grand chapitre sur le Christ, voilà, au paragraphe 2 de la profession de la foi chrétienne, c'est la Vierge Marie dont il est question. « Conçue du Saint-Esprit, née de la Vierge Marie » s'intitule le paragraphe 2 de cette profession de la foi chrétienne. Alors, je me souviens que nous avons déjà évoqué la Vierge Marie dans un précédent entretien, ça remonte à un certain temps déjà, Marie qui était appelée la Nouvelle Ève. Il me semble assez important d'abord de redire Marie, pour moi, c'est, quand certains se disent « oui, on parle de Marie, on en parle trop, on la met trop au centre de tout », c'est pas ça dont il s'agit. Quand on parle de la Vierge Marie, généralement, on va dire quelque chose du Christ, puisque elle qui a porté le Christ, qui a conçu le Verbe de Dieu, devenu Fils de Dieu en notre humanité. Je pense que c'est important, pour moi en tout cas, de bien situer Marie, on la comprend, dans le projet de salut de Dieu, non pas comme quelqu'un qui ne prend pas la place de Dieu, elle est dans ce mouvement. Là, ce qui serait peut-être bien, parce que je disais qu'on a vu quelque chose avant sur Marie, mais en fait, quand on regarde le catéchisme, il y a d'autres parties du catéchisme qui vont revenir sur la Vierge Marie. Peut-être, donc toi qui connais bien un peu cette organisation du catéchisme, peut-être tu pourrais nous dire, je serais heureux de l'avoir moi-même, mais aussi les auditeurs, je suppose, nous dire comment ça s'articule, quelle architecture on a dans le catéchisme, quelle place Marie tient dans le catéchisme, comment c'est présenté.
Oui, tu as tout à fait bien raison de poser la question, parce que quelqu'un qui ferait de la mariologie, de l'étude sur la Vierge Marie, serait surpris de voir que les sections qui la concernent sont un peu éparpillées. C'est la première impression générale que l'on a. Dans les différents paragraphes du catéchisme de l'Église catholique, on pourrait se dire, tiens, pourquoi n'ont-ils pas mis tout ce qui concerne la Vierge Marie dans une série de numéros, on aurait dit, des Marias traitées sur la Vierge Marie. Mais telle n'était pas justement la vision intégrative du catéchisme, qui voulait bien dire que c'est à travers les mystères de Dieu que l'on veut contempler la Vierge Marie comme instrument de ce mystère de Dieu. Et donc la Vierge Marie apparaît un peu dans le mystère du Père, dans le mystère du Fils, dans le mystère du Saint-Esprit, et finalement dans le mystère de l'Église. Et je crois que ça a été ça qui a été la détermination des auteurs, de ne pas concentrer sur une sorte de mariologie à part, mais bien montrer que, dans le fond, Jésus est né de la Vierge Marie. Ça fait partie de l'instrument divin que Dieu a utilisé pour la naissance de son Fils. Il y avait dans cet instrument une part humaine qui était la Vierge Marie. Et il est important donc de bien reprendre les choses, en particulier se souvenir que au numéro 410-411, on a parlé du protévangile. Et ce protévangile, c'est la fameuse annonce dans la Genèse que, bien sûr, Satan a triomphé, je dirais, provisoirement d'Adam et Ève en leur faisant manger du fruit de l'arbre qui n'était pas permis de goûter, de manger. Et Dieu intervient et il promet que dans la descendance d'Adam et Ève, il y aura une femme qui triomphera de Satan, qui lui écrasera la tête, même si ce sera dans le combat, puisque celui-ci aura la possibilité de mordre le talon de cette femme. Mais le numéro 411 dit bien qu'il s'agit de la Vierge Marie. De nombreux pères et docteurs de l'Église reconnaissent dans la femme annoncée dans le protévangile la mère du Christ, Marie comme nouvelle Ève. Donc c'est très net que dans le mystère du Père, il y a déjà la figure de la Vierge Marie. Et mine de rien, avant ces numéros 484 et suivant que nous allons regarder maintenant d'une manière un petit peu plus dense jusqu'au numéro 511, de très nombreuses fois déjà le nom de Marie était présent, parce qu'on ne peut pas dissocier l'humanité de Jésus de la Vierge Marie. 18 fois le nom de Marie a déjà été prononcé par le catéchisme de l'Église catholique avant d'arriver à cette section du 484 à 511 qu'on pourrait appeler Marie dans le mystère du Fils. Et il y aura d'autres sections après, comme tu l'as très bien souligné, du numéro 721 à 726, il y aura Marie dans le mystère du Saint-Esprit, à tel point que un pape a même osé utiliser cette métaphore que Marie serait comme l'épouse du Saint-Esprit. Vraiment, il faut prendre cette expression d'une manière assez métaphorique. Et puis, quatrièmement, Marie fait partie de l'Église, c'est ce que le Concile Vatican II a voulu dire dans Lumen Gentium, dans le 8e chapitre de Lumen Gentium, numéro 52 à 69. Marie ne devait pas être traitée en dehors de l'Église, mais à l'intérieur de l'Église, parce qu'elle fait partie de l'Église. Elle fait partie du corps du Christ. Le Christ est la tête de l'Église, et son corps, dans son corps, il y a d'une manière éminente la Vierge Marie. Et vous avez donc une quatrième section qu'on pourrait dire Marie dans le mystère de l'Église, au numéro 963 à 975. Et il y avait une grande tension au moment du Concile Vatican II, des évêques. Certains évêques voulaient qu'on traite de la Vierge Marie indépendamment du mystère de l'Église, et une autre partie voulait que l'on traite de la Vierge Marie dans le mystère de l'Église à travers ce chapitre 8e. Et finalement, ayant consulté le saint pape Paul VI, ayant recreusé les textes, et puis il y a eu l'évidence en tombant sur un texte de saint Augustin qui montre que vraiment Marie est dans l'Église. Et c'est finalement cette moitié qu'il a emporté des évêques. Et on a accepté à ce moment-là ce chapitre 8e dans lequel la Vierge Marie a été traitée dans le mystère de l'Église. Mais le risque, si vous voulez, si je me contente de ce numéro 963-975, Marie dans le mystère de l'Église, c'est que j'oublierai à ce moment-là qu'il faut aussi considérer Marie dans le mystère du Saint-Esprit, Marie dans le mystère du Fils et Marie dans le mystère du Père. Et c'est ce qu'appelle le catéchisme, en quelque sorte, en réconciliant les deux moitiés de l'épiscopat réunis à Vatican II pour donner à chaque mystère un aspect marial. Et n'en oublier aucun, de ne rien perdre du précieux, grain qui tombe dans cette grande roue de la révélation, ce grand moulin mystique, comme dirait cet auteur du moulin mystique à Vézelay, où tout le bon grain tombe à travers la croix, à travers ce moulin mystique, et qui arrive dans les mains des apôtres pour le distribuer sur la terre. Il y a une œuvre apostolique qui est magnifique, de récolter le précieux grain moulu pour qu'il aboutisse finalement comestible auprès de tous les chrétiens. Et donc dans le mystère du Père, dans le mystère du Fils, dans le mystère du Saint-Esprit et dans le mystère de l'Église. Donc on ne déroge pas à la volonté du Concile Vatican II qui n'avait comme focus que l'Église. Je rappelle que le sujet général, c'était quand même le mystère de l'Église. C'était ça qui était le désir de Vatican II, puisque Vatican I l'avait déjà eu, mais la guerre de 1870 avait empêché d'aller jusqu'au bout des désirs des pères à Vatican I. Puis tout s'était mort, et puis bon, on avait laissé un peu tomber de finir ce concile de Vatican I. On l'a fini à Vatican II avec comme sujet explicite l'Église. Et donc il fallait que la Vierge Marie, évidemment, soit considérée dans ce mystère de l'Église et pas ailleurs. Ça aurait été une grosse erreur par rapport à la finalité du concile qui voulait s'attacher au thème des ecclésias. le mystère de l'Église. Et c'est ce qui nous a donné la grande constitution Lumen Gentium, dans lequel il y a ce chapitre 8e, et c'est beau, est-ce que le chiffre 8 est un mot, est un chiffre eschatologique, en fait, comme le 8e jour. Et on montre que Marie, dedans, a une part, je dirais, la plus magnifique de l'Église, elle est la part principale et la part la plus élevée du mystère de l'Église. Donc on ne retire rien à la Vierge Marie en la mettant dans l'Église, au contraire, on la met mieux en valeur. Et ça, je crois que c'était une grande réussite du Concile Vatican II. Et le catéchisme, donc, agrandit l'espace, en quelque sorte, de la vision que les chrétiens doivent avoir sur la Vierge Marie en donnant ces nombreux paragraphes sur la Vierge Marie.
Merci, alors, frère Édouard, d'avoir repris cette architecture de la place de Marie dans le catéchisme de l'Église catholique. Marie dans le mystère du Père, Marie dans le mystère du Fils, Marie dans le mystère du Saint-Esprit et Marie dans le mystère de l'Église. La suite, Marie dans le mystère du Fils, comment ça s'organise ?
Eh bien, puisqu'il s'agit du mystère du Fils, c'est le moment de la conception de Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Quel est le grand moment de la conception de l'humanité sainte de Jésus ? Eh bien, c'est l'Annonciation. Et c'est ainsi que commence le numéro 484. L'Annonciation à Marie inaugure la plénitude des temps, Galates 4:4. C'est le seul passage, d'ailleurs, où on parle de Marie dans les lettres de saint Paul. C'est très beau qu'on le mette bille en tête. C'est-à-dire l'accomplissement des promesses et des préparations. Marie est invitée à concevoir celui en qui habitera corporellement la plénitude de la divinité. C'est une autre façon de parler de l'union hypostatique dont on a parlé, l'union selon la personne dont on a parlé dans différents entretiens, Colossiens 2, 9. Donc c'est magnifique, on nous met au cœur finalement de l'incarnation. L'incarnation débute avec l'Annonciation.
Merci.
Bien volontiers.
Voir.